France Inter.
L'heure de votre journal, Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour à tous. Première sortie pour le Premier ministre Lecornu, de nouveau en fonction après sa renomination tard dans la soirée hier. Il a rendu visite aux policiers du commissariat de L'Haÿ-les-Roses, commune LR. On verra quels enseignements l'on peut tirer pour le gouvernement que Sébastien Lecornu doit très rapidement former. La droite, c'est l'une des clés, mais chez LR, on ne parle pas d'une même voix. Pas question pour Bruno Retailleau de rempiler, mais les députés soutiennent le futur gouvernement. Et pendant ce temps, les investisseurs s'inquiètent d'une France sans budget, sans cap politique et économique clair. On verra également si la crise politique affecte nos quotidiens, nos achats. À la une également ce week-end, les Gazaouis rentrent chez eux à la faveur du cessez-le-feu, ou chez eux, ou ce qu'il en reste. Pendant qu'en Cisjordanie, on se prépare à la libération des prisonniers palestiniens, mais sans célébration ni fête. Jurassic Park dans le Larzac, un crocodile vieux de 180 millions d'années, a été retrouvé et va être exposé au musée de l'Odève. Et la météo, Céline Dacosta, le soleil sera plus généreux cet après-midi.
Oui, la grisaille se morcelle et les éclaircies gagnent du terrain sur la moitié nord.
Météo complète à la fin de ce journal.
France Inter.
Il a un gouvernement à composer, mais pas question de rester enfermé à Matignon pour Sébastien Lecornu. Le Premier ministre, renommé hier soir à 22h par Emmanuel Macron, a choisi d'effectuer un premier déplacement dès ce matin en région parisienne, à L'Haÿ-les-Roses. Bonjour Valentin Dunat.
Bonjour.
Vous suivez Sébastien Lecornu au commissariat de police de L'Haÿ-les-Roses. L'objectif principal, c'est de montrer le Premier ministre sur le terrain.
Oui, c'est d'ailleurs ce qu'il a commencé par dire lors de sa première prise de parole depuis sa renomination ici à la sortie du commissariat de L'Haÿ-les-Roses. On est dans un moment dans lequel on parle de politique, mais la vie quotidienne des Français continue. Sébastien Lecornu a également été interrogé par les critiques concernant sa reconduction, jugée ridicule par certains. Voilà la réponse du Premier ministre. Ce qui est ridicule, c'est le spectacle dans lequel l'ensemble de la vie politique est en train de se tenir depuis plusieurs jours. Il répète également que lui n'a pas d'agenda, pas d'autres ambitions que de sortir de ce moment pénible pour tout le monde. Il dessine également les contours de ce nouveau gouvernement qui doit être nommé d'ici demain soir.
Moi, je vais vous dire, j'ai pas d'agenda. J'ai pas d'autre ambition que de se sortir de ce moment qui est objectivement très pénible pour tout le monde. Et donc, faut un gouvernement qui ne soit pas complètement prisonnier de certains appétits partisans, c'est-à-dire avec des sensibilités partisanes, mais pas emprisonné par les partis. Il faut que ce gouvernement puisse être libre.
Sébastien Lecornu qui ajoute « Le pays est face à un moment de vérité important. Je ne suis pas là pour faire la morale, je suis là pour faire mon devoir. » Il a voulu illustrer ce sens du devoir en étant à côté du député de la circonscription, Vincent Jeanbrun. À l'été 2023, lors des émeutes, le domicile de cet élu avait été attaqué à la voiture Bélier. Sa femme et ses enfants étaient à l'intérieur du domicile. Sébastien Lecornu insiste donc sur ce point. C'est un homme de devoir, un moine soldat, désormais en route pour Matignon, pour nommer le nouveau gouvernement.
Valentin Dunat pour ce premier déplacement du chef du gouvernement avec à la technique Geoffrey Marianne. Merci à tous les deux. L'Haÿ-les-Roses dans le Val-de-Marne, la ville du LR Vincent Jeanbrun. Vous l'avez dit Valentin, maire puis député LR de la ville. Faut-il y voir un indice pour la composition du gouvernement de Sébastien Lecornu? En tout cas, la clé de ce futur gouvernement se trouve peut-être à droite ce matin. Les députés LR ont apporté cette nuit un très large soutien au gouvernement, mais ils ne veulent pas y participer. Le patron du parti, Bruno Retailleau, démissionné du ministère de l'Intérieur, n'y retournera pas. Laurence Perron, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi les tractations de la matinée.
Oui, et le bureau politique n'est pas encore terminé, mais les débats y sont très vifs. Et cela va bien au-delà de la question de la participation au gouvernement de Sébastien Lecornu. Florence Portelli, LR, vice-présidente de l'Association des maires de France, estime qu'il n'y a plus qu'une seule solution.
Moi, je suis pour la démission du président de la République. Je pense que c'est intenable. Une dissolution ne donne même pas la garantie d'une majorité. S'il ne le fait pas, écoutez, il faut redonner la parole au peuple. Mais de toute façon, on est dans une solution qui sera de toute façon mauvaise tant que le président de la République reste au pouvoir. Mais en aucun cas, il nous faut qu'on donne l'impression à nos compatriotes qu'en plus, on reste, malgré nos convictions, malgré ce qu'on a toujours dit, uniquement pour conserver des fauteuils. Ce serait catastrophique.
Alors elle parle en son nom et celui des élus locaux, dit-elle, qui sont affligés par le spectacle donné par la politique française. Ce matin, vous l'avez dit, Bruno Retailleau, le patron des LR, ainsi que Gérard Larcher, le président du Sénat, ont estimé que les LR ne devaient pas participer à ce nouveau gouvernement. Mais dans les rangs des amis de Laurent Wauquiez, la question fait débat. La crainte pour le patron des députés de la droite LR, c'est une dissolution et un retour aux urnes qui pourrait leur être tragique, puisque quoi qu'ils en disent, c'est aussi le piège d'ailleurs dans lequel les a enfermés Emmanuel Macron. Les LR, depuis 2024, ont participé à tous les gouvernements quand ils ne les ont pas même dirigés.
Laurence Perron, service politique de France Inter, merci à vous. Un peu plus au centre droit, le président du groupe UDI au Sénat, Hervé Marseille, ne coupe pas les ponts avec Matignon. Il imagine ce matin pouvoir travailler avec le nouveau gouvernement sans y participer, même s'il considère que reconduire Sébastien Lecornu politiquement n'était pas la bonne idée. Le sénateur UDI ne croit pas à l'existence d'un gouvernement technique. Selon lui, ça n'existe pas, un gouvernement dit technique. Les choix sont politiques. Les réactions sont beaucoup plus courroucées au RN, où l'on promet la censure, comme à la France insoumise. Et dans les autres partis de gauche, tout ça va très mal se terminer, tonnait hier Marine Tondelier à la sortie de la réunion convoquée par Emmanuel Macron à l'Élysée. Et ces mots encore de Sébastien Lecornu ce matin à La Île-et-Rose. Là, c'est à destination des socialistes qui réclament la suspension de la réforme des retraites, devenue le point de blocage. La suspension de cette réforme pour ne pas censurer. Eh bien, Sébastien Lecornu a répondu ce matin, tous les débats sont possibles à condition de rester dans un cadre réaliste, notamment au niveau budgétaire. Emmanuel Macron a-t-il attendu la fermeture des places financières hier soir pour annoncer la reconduction de Sébastien Lecornu à Matignon à 22h? En tout cas, pour l'instant, la France échappe à une réaction trop vive des marchés, mais ça n'empêche pas l'inquiétude des investisseurs. Le patron d'Euronext, Stéphane Boujna, à la tête de plusieurs marchés boursiers européens, fait un constat amer ce matin sur notre antenne. L'absence de direction politique claire, c'est tout ce que les bourses redoutent.
Les marchés savent que la France est une économie qui est diversifiée, qui est puissante, mais ils ont du mal à comprendre la capacité du pays à traiter ses problèmes structurels. Donc quand il y a de la stabilité, ça se passe assez bien. Quand on ne voit pas le pilote dans l'avion, il y a de l'inquiétude. C'est pour ça d'ailleurs que depuis un an, les taux auxquels la France emprunte à 10 ans se sont significativement détériorés. Désormais, la France emprunte plus cher que l'Allemagne, mais plus cher que l'Espagne, plus cher que le Portugal, plus cher que la Grèce, et au même niveau, et certains jours, plus cher que l'Italie. Si la situation ne se stabilise pas, ça va se détériorer avec des conséquences qui pourraient devenir plus lourdes. On n'aura pas, contrairement à ce que certains disent, de problèmes de liquidité ou de problèmes de solvabilité. On n'aura pas de FMI à Paris, non. Ce qu'on peut avoir, c'est une lente asphyxie de notre capacité à prendre des décisions.
Stéphane Boujna, le directeur général et président du directoire d'Euronext. Il était l'invité d'Alexandra Ben Saïd ce matin dans On n'arrête pas l'écho. Des investisseurs sur la réserve, on l'entend. Des consommateurs peut-être plus frileux également devant ce grand vide. On ne sait pas de quoi sera fait le budget de la France, les impôts, le régime des retraites. Clémentine Sabrier est allée demander à des commerçants et à leurs clients si cette impasse politique avait des conséquences sur leurs achats.
Avec l'instabilité politique, c'est difficile de prendre des décisions financières pour Abdennour, un pharmacien rencontré sur un marché de Montparnasse.
Et on se pose beaucoup de questions en fait sur l'avenir et sur les investissements qu'on fait, vu que ça crée de l'instabilité et du coup nos investissements même à faire après. Sur des choses, oui, on réfléchit à deux fois maintenant.
Comme quoi par exemple?
L'achat d'un appartement, des investissements un peu plus concrets.
Par exemple un canapé, un lit ou un dressing. Hervé Lélier est responsable vente dans un magasin de meubles un peu plus loin. Son chiffre d'affaires est en baisse de 30% depuis la dissolution en juin 2024.
Il y a moins de clients et ceux qui rentrent sont en situation d'attente. Ils attendent. On sent qu'il n'y a pas d'acte d'achat, il n'y a pas de projet effectif.
Le vendeur ne voit pas comment la situation pourrait s'améliorer. Sentiment partagé par Nathalie, une secrétaire médicale qui faisait son marché ce matin.
Finalement, on reprend les mêmes, on recommence. Quoi. Donc, grande mascarade. Et on va laisser traîner comme ça et jusqu'à la prochaine élection, en fait. Hein, c'est ça le truc.
Pour Serge, une seule solution. La destitution ou la démission du président.
Il faut le dégager, c'est Macron le problème. Parce que tant qu'il sera là, ça sera un cercle sans fin.
Mais il reconnaît qu'il ne sait pas qui pourrait prendre sa place.
Au reportage de Clémentine Sabrier ce matin à Paris, et au-delà de nos frontières, sur la scène internationale, ce blocage politique, l'entêtement du président à reconduire un Premier ministre qui avait annoncé la fin de sa mission quelques jours plus tôt, quelle image donne la France d'elle-même à ses partenaires européens? En Italie, par exemple, où l'on a connu quelques crises avant l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite de Giorgia Meloni, c'est la correspondance à Rome d'Olivier Tosseri.
Chaos, crise de régime, mort du macronisme sont les titres les plus récurrents à la une de la presse italienne. La France serait-elle la nouvelle Italie, s'interroge-t-elle avec un sentiment de revanche sur cette voisine perçue comme arrogante et donneuse de leçons. Paris, dont la légendaire stabilité politique a désormais volé en éclats, devrait pourtant suivre l'exemple de Rome, estiment de nombreux observateurs politiques italiens. La péninsule jouit d'une rare stabilité avec un gouvernement Meloni solidement en poste depuis 3 ans et dont les efforts de sérieux budgétaires sont salués par les marchés financiers. La coalition des droites au pouvoir a toujours nourri une certaine aversion à l'égard d'Emmanuel Macron et fustige le manque d'esprit de compromis du président français, prenant acte d'une 5e République à bout de souffle. Mais certaines voix s'élèvent déjà pour mettre en garde ceux qui se réjouissent trop vite des difficultés de la France. Combinée à celle de l'Allemagne, cette crise pourrait bloquer l'ensemble de l'Union européenne et provoquer des turbulences financières. Rome, Olivier Tosseri, France Inter.
Olivier Tosseri nous appelait de Rome.
France Inter, le journal de 13h, Amélie Perrier.
À Gaza, jour 2 d'un cessez-le-feu tant attendu par une population exsangue sous le feu des bombardements israéliens depuis 2 ans, depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023. L'accord de cessez-le-feu semble être respecté entre l'État hébreu et le Hamas. Les otages israéliens devraient être libérés lundi. Et côté palestinien, environ 200 000 Gazaouis déplacés sont rentrés chez eux depuis hier. Un retour douloureux parfois, tant le territoire a été dévasté, comme nous le raconte Youssef, joint par Christian Chéneau.
C'est l'anarchie au sens propre du mot. Les gens ont retourné chez eux. Je connais pas mal de personnes qui ont retourné chez eux. Ils ne trouvaient pas leur maison. Ils disent toujours que la première nuit, c'est l'enfer. Donc, ils ont trouvé un problème. D'où tu vas ramener l'eau? Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, quoi. Je vais mettre une tente, je vais essayer de nettoyer, je vais trouver un endroit. Il y a, par exemple, des maisons qui ont resté, par exemple, une seule chambre, et ils font des tentes. C'est l'anarchie, vraiment. Et tu dois recommencer à zéro. Il y a des familles qui ont déplacé 12 fois. Ils disent 12 fois, je recommence à zéro pour que je m'installe, pour au moins trouver des toilettes. C'est dur, quoi.
Et est-ce qu'il y a à manger? Est-ce qu'il y a de la nourriture?
Aujourd'hui, l'Égypte va faire rentrer 100 camions des aides, d'essence, carburant et des aides humanitaires. C'est un début.
Youssef, un habitant de Gaza, il était joint par Christian Chéneau. Dans l'autre territoire palestinien, en Cisjordanie, se jouera l'autre partie de l'accord de cessez-le-feu contre la libération des otages israéliens. Des prisonniers palestiniens devraient sortir des geôles israéliennes dans une certaine discrétion. Là, l'État hébreu a posé son veto sur la libération des figures les plus médiatiques comme Marwan Barghouti et entend expulser la majorité des détenus directement dans d'autres pays sans passer par la Cisjordanie. Reportage à Ramallah, signé Marie-Pierre Véraud.
Alors que Benjamin Netanyahou espère une grande fête nationale dès lundi soir pour le retour de tous les otages israéliens, la majorité des prisonniers palestiniens ne pourra pas regagner la Cisjordanie, qui se retrouve privée de fête, regrette Bisman, une jeune étudiante.
Eux, ils seront contents et ils vont faire la fête. Mais pour nous, lorsque nos prisonniers seront libérés, ce sera une joie incomplète.
Salma, sa grand-mère, ne comprend pas.
C'est injuste. Pourquoi ont-ils le droit de faire des célébrations et pas nous? Ce sont des êtres humains, nous aussi. Personne n'est meilleur que l'autre.
Derrière son étal d'aubergines et de poivrons au marché d'Albiré, Rebéi estime, lui, qu'il est sans doute plus prudent de ne pas organiser de grandes célébrations afin de protéger la population.
Ceux qui vont célébrer ici pourraient être arrêtés. C'est pourquoi nous ne voulons pas de grandes fêtes. Le plus important est qu'ils retrouvent la liberté.
D'autant, ajoute-t-il, qu'ils pourraient être de nouveau arrêtés ici, comme c'est déjà arrivé. Nasni opine. Il tient une petite échoppe dans le marché.
Ce sera triste, mais au moins, ils seront hors de la prison. Ils vont avoir une nouvelle vie. Ils prendront un nouveau départ.
Il esquisse un sourire. Cette fête, on la fera dans nos cœurs.
Le reportage à Ramallah en Cisjordanie de Marie-Pierre Véraud avec Gilles Gallinaro. Et si Israël semble respecter le cessez-le-feu avec le Hamas palestinien, ce n'est pas le cas de la trêve conclue avec le Hezbollah libanais. Le président du Liban dénonce des frappes la nuit dernière contre des installations civiles dans le sud de son pays. L'attaque aurait fait 1 mort et 7 blessés selon le ministère de la Santé. La Gen Z a-t-elle été entendue au Maroc? En tout cas, le mouvement de contestation de la jeunesse suspend ses manifestations ce week-end. Une pause stratégique quelques heures après un discours du roi. Mohamed VI a demandé au gouvernement hier d'accélérer les programmes de développement pour l'éducation et la santé. En France, on apprend aujourd'hui qu'un détenu s'est échappé de l'hôpital psychiatrique de Caen. Un mandat d'arrêt, un mandat de recherche a été délivré. Le détenu purgeait une peine importante au centre pénitentiaire de Caen, condamné pour vol et viol par la cour d'assises du Rhône, a précisé le procureur. Eux manifestent cet après-midi à Paris, Bordeaux, Lille, Brest, Montpellier ou Marseille. La Mad Pride, une marche des fiertés pour les personnes souffrant de troubles psychiques. Elles veulent descendre dans la rue sans les soignants, c'est une première car elles ne se sentent pas écoutées, entendues au moment de l'élaboration des politiques de santé publique. Beaucoup critiquent aussi, Rémi Brancato, le système de soins psychiatriques hospitaliers.
Le mouvement des Mad Pride, ces marches des fiertés folles, nées au Canada il y a plus de 30 ans, veut lutter contre la stigmatisation des personnes souffrant de troubles psychiques. Et en cette année de grande cause nationale pour la santé mentale, elles ont été invisibilisées, disent les militants du collectif, dont fait partie Nan Marcy. C'est un pseudo.
Nous nous opposons à la grande cause nationale qui a prétendu améliorer le sort des personnes concernées sans leur participation.
Pas question donc d'organiser la marche avec des soignants. Le mouvement autonome revendique la fin des hospitalisations forcées ou de la contention.
Nous avons besoin de soins psychiatriques. Ces soins psychiatriques incluent des pratiques structurellement violentes. Nous voulons que la possibilité du soin ne soit pas soit la violence psychiatrique de l'hôpital, soit la prison, soit la rue, soit le suicide.
Les militants du collectif sont tous confrontés à des difficultés psychiques, mais comme les autres, Nan Marcy, chercheuse en philosophie par ailleurs, ne veut pas mettre en avant ses propres symptômes.
Nous nous opposons à la pathologisation. Je ne suis pas malade, j'ai été violée. Ce sont les personnes qui m'ont violée qui sont malades.
Le collectif entend dénoncer une société malade de sa violence qui génère ses troubles psychiques et demande l'accès à des lieux de soins alternatifs, communautaires.
La Mad Pride dans plusieurs grandes villes de France cet après-midi et à Paris entre la place de la République et Nation. Il a 180 millions d'années. Il a traversé les âges pour émerveiller aujourd'hui les visiteurs du musée de l'Odève dans l'Hérault. Le squelette quasi complet d'un fossile de crocodile datant de la période du Jurassique. Une découverte exceptionnelle. Le fossile du crocodile marin a été retrouvé dans le Larzac et Clara Vincent a pu le découvrir en avant-première à l'Odève.
Impressionnant déjà par sa taille, souligne Stéphane Fouché du musée de l'Odève.
Entre 4,50 m et 5 m, on n'a pas encore fait la vraie mesure.
Impressionnant aussi par son âge.
Il date d'environ de 180 millions d'années.
Quatre saisons de fouilles menées entre 2017 et 2020 ont été nécessaires pour exhumer l'intégralité du squelette, une découverte inédite dans le sud de la France.
Inédit pour nous parce que l'équivalent géologique et temporel se trouve en Allemagne ou en Angleterre.
Autre chose rare, l'état quasi intact du squelette soulève Camille Auclair de la société Craniata chargée de la restauration du fossile.
De manière générale, quand un animal va mourir, il va être décomposé, éparpillé par les prédateurs ou les charognards. Donc c'est assez rare de trouver des animaux vraiment avec tous les os en connexion comme du vivant de l'animal.
Il aura fallu au total 5 mois pour dégager le squelette des sédiments rocheux, soit une demi-tonne de blocs de pierre.
Gros croco.
Gros croco, oui. Qui prenait beaucoup de place dans l'atelier.
Un travail qui vient tout juste de finir pour Camille.
Le crâne a été fini de dégager il y a très peu de temps, il y a quelques jours à peine.
Et il faudra encore plusieurs mois pour déterminer l'espèce exacte de ce crocodile marin. Une tâche qui incombera à un chercheur à compter de la mi-mars prochain.
Oui, puisque l'exposition pour admirer ce crocodile du Jurassique débutera la semaine prochaine, le 18 octobre, et va durer jusqu'au 15 mars. C'est un autre phénomène aquatique. Léon Marchand, superstar de la natation française depuis les JO de Paris, a été battu, oui ça arrive, en ouverture de la Coupe du Monde en petit bassin. Marchand a été vaincu par son compagnon d'entraînement, le Hongrois Hubert Kos, sur le 200 mètres d'eau. Et cet après-midi, vous suivrez peut-être le rugby aussi. Pour cette sixième journée de Top 14, une nouveauté au stade Jean-Bouin, où le stade français reçoit La Rochelle. Une association baptisée Tout Terrain va proposer des commentaires en audio description pour les déficients visuels. Les précisions de Grégoire Bélière.
Vivre le match au stade comme tous les autres supporters, c'est enfin possible pour Anne, malvoyante de naissance. Un soulagement pour cette Toulousaine d'origine, passionnée de rugby, mais pour qui l'accès aux tribunes restait jusqu'alors très difficile.
Sans l'audiodescription, ce n'est pas trop la peine d'aller au stade, sauf s'il y a quelqu'un qui décrit à côté. Mais une audiodescription faite par des personnes qui sont quand même spécialisées, c'est quand même indispensable.
Parmi ces personnes spécialisées, Jérémy Tourneur, le président de l'association, qui commentera en faisant attention aux moindres détails. Chaque action est décrite à la seconde, en situant le ballon sur le terrain en permanence. Et surtout, il pourra faire vivre l'ambiance dans le stade.
Dernièrement, à l'UBB, il y a une énorme hola qui s'est lancée. Je leur ai décrit ce qui se passait dans la tribune autour d'eux. Et je leur ai fait un décompte. Je leur ai dit, voilà, en fait, la hola, elle arrive sur vous dans 3, 2, 1 seconde. Et ça résume bien l'esprit de notre dispositif. Leur permettre de faire tout comme tout le monde.
Si la Ligue d'Île-de-France prend en charge les frais de cette première expérience, l'objectif à long terme est de passer le relais au club pour étendre cette initiative de façon plus durable.
Et Stade français La Rochelle pour tous. Donc, c'est à 16h35 cet après-midi. Et quel temps pour ce samedi ?
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Et bonjour, c'est Linda Costa.
Bonjour Amélie, bonjour à tous.
L'après-midi sera calme et globalement ensoleillé.
Oui, et ça quasiment partout, après dissipation des nuages bas qui étaient bien présents ce matin. Le ciel va tout de même rester un petit peu plus nuageux sur les bords de Manche et le Val de Saône, où la grisaille va avoir un petit peu plus de mal à se dissiper, mais partout ailleurs, de la lumière, du soleil, un ciel bien dégagé grâce à un petit vent de nord-est au nord de la Loire et un peu de vent d'automne sur les plaines toulousaines.
Et qui dit soleil dit température en hausse.
Oui, l'ambiance se radoucit un petit peu sur la moitié nord et le centre-est, 17 degrés attendus à Cherbourg, Mulhouse, 19 pour Tours et Lyon, 20 degrés à Paris et Brest. 20 degrés à Paris, c'est 5 degrés de plus qu'hier, donc vous voyez, ça se radoucit bien. 22 à Rennes et Nevers. Pour la moitié sud, ce sera même quasi estival. 24 à 27 degrés, c'est la moyenne. On attend 25 degrés à Bordeaux ou à Marseille.
Merci, Céline Dacosta.